La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Art et intuition poétique. Deux mains qui se contredisent et qui luttent. Bonjour. Deuxième émission autour de l'intuition créatrice dans l'art et la poésie, œuvre publiée en 1953 en anglais par Jacques Maritain qui vit aux États-Unis, il enseigne à Princeton et elle reprend 6 conférences données à Washington à la National Gallery. Nous entrons maintenant dans le chapitre 3 intitulé « La vie préconsciente de l'intellect » abordé à l'émission précédente et le sous-titre est croustillant. L'art mordu par la poésie aspire à se libérer de la raison. Je parlais en introduction de deux mains qui luttent. Oui, l'art mordu par la poésie, il s'agit donc des règles de l'art qui vont être mises à mal par la poésie, mais en même temps qui lui ont servi d'appui pour advenir. Et Maritain va analyser l'évolution de l'art contemporain depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à l'après-guerre. Il va voir 3 libérations. La première, c'est la libération de la nature et des formes naturelles. L'art transforme la nature, non seulement en portant à l'extrême la loi de déformation des apparences naturelles que la peinture a toujours appliquée, mais aussi en faisant surgir de la nature dans la structure de couleurs ou de mots propres à l'art, un autre univers de formes et de rapports entre formes, univers qui découvre une réalité plus profonde, plus apparentée à nos rêves, à nos colères, à notre angoisse ou à notre mélancolie. Et chez les grands artistes, cela n'implique en aucune manière un mépris quelconque de la nature ou un divorce d'avec elle. Ils volent plutôt à la nature ses propres secrets de poésie. Deuxième libération, relevée par Jacques Maritain, c'est la libération du langage. Elle consiste à le transformer. Il s'agit du langage rationnel. Celui-ci n'est pas fait pour exprimer le singulier. Il est chargé de connotations sociales et utilitaires, d'associations toutes faites, de significations rebattues. Il est envahi par la fadeur inévitable qui résulte de l'habitude. C'est pourquoi, non seulement il entrave la poésie, il l'aiguille sans cesse sur des voies de garage, il lui fait dire autre chose que ce qu'elle veut dire. Je vous ferai une remarque personnelle. Quand vous êtes jeune poète, eh bien vous parler souvent par cliché, parce que ça fait poétique de parler du soleil qui darde ses rayons d'or. Mais là, on arrive à un tel cliché éculé qu'il n'est plus poétique. Il est simplement un cliché, un topos littéraire. Il faut donc être créateur en se libérant du langage, et plus il y a de poètes, pourrait-on dire, plus une langue va avoir de clichés stéréotypés et qui peuvent servir à faire, par exemple, le blason en poésie, les doigts de rose, les joues vermeilles, les yeux bleus, la peau d'ivoire, voilà. Mais être créateur va peut-être consister à, comme le dit Pierre Reverdy, de l'école surréaliste, à rapprocher deux réalités, et plus elles sont éloignées, plus l'image sera forte. Effectivement, si vous parlez d'une locomotive sur une table à repasser, ce sont deux images fortes qui correspondent à deux réalités éloignées. Est-on encore dans la poésie ? C'est toute la question de la modernité qui doit s'affranchir du langage quotidien. Troisième affranchissement, c'est s'affranchir en quelque sorte de la clarté. L'art pénètre dans les régions de l'obscurité, écrit Maritain. L'obscurité s'épaissit quand on arrive à cette étape-là, et il cite Reverdy, « Je suis obscur comme le sentiment ». De quelle obscurité s'agit-il ? Maritain dit qu'il s'agit de se délivrer du sens intelligible ou logique lui-même. Pensez à certains poèmes de René Char ou d'Henri Michaud. à certaines toiles cubistes. Plus impatiente que jamais de communiquer un contenu sans prix, l'œuvre pourtant ne parle plus. Elle est comme muette. Elle nous frappe au cœur par des voies interdites. Est-il vrai que le sens logique est disparu ? Non, c'est impossible. Mais il a été, pour ainsi dire, absorbé par le sens poétique. Il a été brisé, disloqué, pour ne plus subsister que comme une sorte de mouvante matière du sens poétique. Le sens poétique seul brille dans l'ombre. Ce sens poétique qui ne fait qu'un avec la poésie elle-même. Il est l'entéléchie intérieure, ontologique du poème. Il lui donne son être même et sa signification substantielle. Et il va citer Raissa Maritain, elle-même, poète, elle a publié 3 recueils. Elle écrit « Il est tout autre chose que le sens intelligible, comme l'âme d'un homme est tout autre chose que son discours. Et dans l'œuvre poétique, il est inséparable de la structure formelle de celle-ci, qu'elle soit claire ou obscure, il est là, quoi qu'il en soit du sens intelligible. Il est substantiellement lié à la forme, immanent à l'organisme des mots, immanent à la forme poétique. Dans l'art moderne, il demande à être définitivement libéré, à tout prix. » C'est cette troisième libération qui permet à Maritain de vraiment mettre en place ce préconscient spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on s'oppose à la raison, vous l'avez bien compris. Le schéma des 3 cônes permet d'intégrer le cône rationnel et logique. Mais ce sens logique est comme mis en deuxième plan. Il est comme en arrière du tableau. On ne va pas le voir, c'est une sorte de point où les lignes de fuite vont converger. Et ce point de convergence des lignes de fuite est en arrière du tableau où se disent les lignes de perspective. C'est très important parce qu'on va comprendre comment Maritain va prendre ses distances vis-à-vis du surréalisme. Une écriture automatique qui se définit contre la raison, contre le sens logique et qui s'appuie sur le simple inconscient pulsionnel qui ne concerne qu'un seul des 3 cônes, celui des sens. Eh bien, Maritain dit que ce n'est pas faire droit à la création profonde du soi. On ne peut pas rejoindre l'être des choses et l'être du soi de l'homme en atrophiant, pour ainsi dire, la dimension humaine dans la création artistique. Et il aura des pages très dures contre l'écriture automatique parce qu'elle s'arc-boute contre le sens logique, qui dans l'art moderne n'est pas premier, et heureusement, il y a autre chose, mais n'est pas non plus absent. Il est simplement éclipsé, ou au congélateur, si vous préférez une image, beaucoup moins poétique et plus prosaïque. Voilà comment Maritain conclut. Dans tout ce que j'ai dit de ce désir de se délivrer de la raison logique, j'ai essayé, bien inadéquatement, j'en ai peur, de dégager en quelque manière la signification pure du travail qui s'est progressivement accompli dans les laboratoires de la poésie moderne. C'est une ligne idéale que j'ai tenté de suivre. En fait, les plus grands parmi les artistes modernes, tout en étant profondément engagés dans le mouvement général, n'ont jamais pris de position extrême. Ils se sont libérés de la raison logique, en ce sens qu'ils en ont transformé l'usage, non en ce sens qu'ils l'auraient aboli.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Intuition créatrice et inconscience spirituelle. Faut-il dire que l'homme serait tributaire de cet inconscient spirituel qui fonctionnerait en lui comme une boîte noire, une boîte motrice, dont il serait dépendant. Une vision un peu d'esclave qui ferait que l'homme ne serait pas complètement libre, ou une vision, on va dire, d'état second qu'on a pu retrouver dans les paradis artificiels, provoquer la création par les drogues. Baudelaire l'a pratiqué, beaucoup d'artistes le pratiquent, beaucoup de jeunes qui veulent créer, même jouer de la musique ensemble, commencent par tomber en état second avec des moyens pas tout à fait honnêtes. Donc comment éviter cette illusion qu'il y aurait un moi dans le moi, un soi dans le soi, deux étages dans l'homme, et que pour créer, il faudrait atteindre cet étage en le réveillant par des moyens de drogue, on va dire, de dépendance, parce qu'ils correspondent à une vision dépendante de l'homme. Pour Maritain, c'est hors de question. Le christianisme a apporté la liberté. La liberté est liée à l'avènement de la personne humaine. Nous avons un Dieu trine en trois personnes, et Dieu veut que l'homme soit libre. Du coup, il faut s'opposer à une vision d'esclave ou de non-liberté dans la création artistique. Nous l'avons vu juste précédemment, le surréalisme est écarté pour cette raison-là, parce que l'inconscient freudien est un inconscient qui encourage une dépendance avec une écriture automatique où il n'y a pas de liberté humaine. La liberté humaine se définissant par la capacité de dire oui ou non, donc de choisir, et faisant intervenir la volonté. C'est tout l'enjeu de Maritain d'articuler toujours dans sa philosophie, quel que soit le plan, pratique ou spéculatif, intelligence et volonté. Bien sûr, la volonté est plus prégnante dans le plan pratique et l'intelligence dans le plan spéculatif, mais cette osmose existe en permanence. Et c'est très fort contre des théories actuelles, des thèses d'un christianisme qui se replie sur lui-même et qui voudrait opposer de manière très basique, par exemple Henri de Lubac et Maritain, à propos de la finalité liée à la nature humaine. Et les enjeux sont graves et sont lourds. Ce serait de supprimer la possibilité pour une philosophie d'être autonome de manière organique avec la théologie et de reléguer toutes les questions de nature à la théologie et de laisser, d'abandonner, on va dire, la sphère philosophique à des philosophies non chrétiennes. C'est grave, mais c'est actuellement quelque chose qui est en cours et que nous retrouvons ici grâce à cette mise en évidence du préconscient spirituel qui empêche de casser la connexion entre philosophie et théologie, entre nature et finalité. Donc ne raidissons pas les frontières et regardons comment une structure bien faite permet de clarifier, par exemple, l'héritage de Platon. Maritain a de très belles pages sur Platon dans le troisième chapitre de l'intuition créatrice dans l'art et la poésie, mais il met en évidence la limite de Platon à propos de la muse. Vous le savez, dans plusieurs textes de Platon, Phèdre, Timée ou Ion, la réflexion sur l'art part du poète. Le poète, pour Platon, est vu comme un inspiré. Et voilà que dans Ion, le poète revient couronné. Il a remporté un prix pour sa poésie et Socrate lui dit « Mais qui a remporté le prix ? Est-ce toi ? Mais oui, c'est moi, mais enfin. Mais non, Socrate, qui a fait la poésie ? Tu es bien d'accord pour reconnaître que tu étais inspiré quand tu as fait la poésie. Mais certes, Socrate, oui, bien sûr. Alors si tu étais inspiré, c'est que les muses t'ont inspiré ? Oui, certes. Donc ce n'est pas toi qui as créé, ce sont les muses. Ah oui, Socrate. Donc la couronne revient aux muses. Et Socrate fait admettre que le poète est un doulos. Doulos, c'est-à-dire un esclave. En quelque sorte, la muse platonicienne a servi l'homme. Il n'est pas pleinement lui-même, il est inspiré et il est mu comme une marionnette peut l'être par une muse. Pour Jacques Maritain, ce schéma-là est impensable en régime chrétien. Je vous rappelle la grande formule de Maritain, la philosophie n'a pas changé de nature entre l'Antiquité et le christianisme, elle a simplement changé d'état. Il va donc montrer que chez Platon, il y avait des idées absolument géniales qui n'ont pas pu s'exprimer complètement et qui sont restées tributaires d'une certaine vision asservissante de la créateur. En premier lieu, la poésie pour Platon est suspendue à une fin suprême qui est la beauté. Ceci à l'opposé des surréalistes, écrit Maritain. La poésie fait passer ici-bas, en lui donnant un corps, la beauté, qui habite un monde infiniment supérieur à l'homme, le monde des idées séparées, bien plus, le monde du divin, où le beau, le bien, le sage et le vrai sont harmonieusement unis. La beauté, dont l'art humain nous montre une ombre ou une participation sensible, est un absolu, un attribut divin, et c'est sa transcendance même qui rend inévitable la folie du poète, lequel n'a pas à se soucier de la vérité comme le philosophe, ni de la justice et du bien comme le législateur, mais du beau seul, en tant que reflété dans notre univers d'ombre. N'oubliez pas le mythe de la caverne pour Platon, mythe fondateur de l'accès à la connaissance. Nous ne voyons que des ombres qui se reflètent sur le mur de la caverne. En second lieu, écrit Maritain, par le fait même, la folie du poète est une folie d'en haut, non d'en bas, contre le surréalisme. Car il y a différentes sortes de folies. Il y a la folie humaine et la folie divine, explique Platon dans le Phèdre. Et la divine folie se divise en folie inspiratrice, mystique, poétique et érotique. Dans le Timée, il nous dit que la partie désirante de l'âme est en pleine jour et nuit de fantasmes et de chimères, l'auteur du monde y a remédié en mettant la divination à la disposition des hommes, si bien qu'il devient possible d'améliorer cette partie inférieure de notre âme et de nous faire entrer, de cette manière, en contact avec la vérité. C'est pour cette raison, continue-t-il, que Dieu a donné l'inspiration à la déraison humaine. Ainsi, le poète entre en contact avec la vérité transcendante et divine selon qu'elle descend vers nous dans la ligne spécifique de la beauté séductrice des sens. La folie a rendu possible l'amitié entre les dieux et les hommes. Et le délire du poète nous révèle non le fonctionnement réel de la pensée, mais notre parenté avec les choses éternelles. C'est pourquoi un poète est chose légère et ailée et sacrée, une âme tendue, tendre et indomptable, saisie par la folie qui procède des muses. Cette vision nous permet de mieux comprendre pourquoi nous voyons plusieurs tentations aujourd'hui qui sont des approximations. Vous avez senti ici la référence à l'oracle, c'est-à-dire que le beau nous renvoie à la vérité. L'oracle était celui qui disait vrai par divination. Le christianisme ne peut pas rentrer dans cette vision des choses parce qu'elle reste tributaire d'une vision de servitude pour l'homme. Cet oracle, vous l'avez avec ce retour aux chiffres, hein, des gens qui vous disent l'avenir en lisant des chiffres, toutes ces médecines parallèles où les gens vont consulter pour savoir ce qu'ils auront demain, si leur santé, on leur dit en fonction de ce que vous avez mangé, bu et vécu, etc. Nous avons un retour complètement païen qui immerge l'art comme le bien-être, le vivre, le quotidien, parce que tout est lié. Et cette clarté de Maritain à propos des pages platoniciennes et de cette influence de Platon en art qui touche aussi toute une manière de voir cette folie, nous permet de nous détacher de ce leitmotiv, soyez dionysiaque. Nietzsche a eu de très belles pages pour relire le christianisme, mais il s'est appuyé sur Dionysios, sur Bacchus, sur ce rythme, cette transe qui permettent de renverser ce qu'il appelle la volonté de puissance ou ce rapport du maître et de l'esclave qu'il voit dans les clercs et le croyant finalement. Maritain va dépasser cette vision de Platon et il propose de retenir de Platon que la muse est pour dire qu'il y a un autre niveau qui sera pour Maritain, ce soit cette vision profonde qui est non pas une folie du poète, mais qui est au contraire une descente en lui-même pour laisser advenir ce tiers-lieu qu'il habite. Folie. Oui, il y a bien une folie, mais cette folie, c'est un instinct victorieux qui est étranger à la raison conceptuelle et logique et qui est libre d'elle. Il n'y a pas de grand esprit créateur sans une admixtion de folie, et l'esprit n'est capable de rien de grand ni de rien proférer qui dépasse le commun des choses humaines s'il n'est pas soulevé par quelque motion supérieure. C'est Ben Jonson, cité par Maritain, et lui-même se référant à la poétique d'Aristote, qui dit « La poésie demande un homme heureusement doué par la nature ou qui a en lui une trace de folie, car la folie est chose inspirée. » Maritain va donc conclure « Je pense que ce qui nous est demandé, c'est de faire descendre la muse platonicienne au-dedans de l'âme humaine, où elle n'est plus muse, mais intuition créatrice. Essaie de faire descendre l'inspiration platonicienne au-dedans de l'intellect uni à l'imagination, où l'inspiration jaillit de plus haut que l'âme, devient inspiration jaillie de plus haut que la raison conceptuelle, c'est-à-dire expérience poétique. Parce plus haut que l'âme, que l'imagination, que la raison conceptuelle, il faut entendre ce point nodal du schéma de Maritain où les trois cônes dont je vous ai parlé, les sens intérieurs et la raison, se rejoignent et c'est le soi. Et cette intuition poétique ou poésie, attention, quand Maritain utilisera le terme de poésie, c'est pas la poésie au sens de sonnet ou de lyrisme, c'est l'intuition poétique. Maritain conclut: il est difficile de parler de ce problème sans mettre en cause toute une philosophie de l'homme. On risque en outre d'être trompé par les mots dont on se sert. Il faut noter en particulier que le mot inconscient, tel que je l'emploie, ne signifie pas nécessairement une activité purement inconsciente. Il signifie le plus souvent une activité principalement inconsciente, mais dont la pointe émerge dans la conscience. L'intuition poétique, par exemple, naît dans l'inconscient, mais elle en émerge. Elle n'échappe pas à la connaissance du poète, c'est au contraire sa lumière la plus précieuse et la règle première de sa vertu d'art. Mais il la connaît sur le rebord de l'inconscient, comme aurait dit Bergson, le maître de Maritain des années 1905. À la semaine prochaine.